Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Rideau Rouge. Peut-être ignorez-vous qui était Saint Geneste. C'est normal, ce n'est pas le saint le plus connu du calendrier. Disons que Saint Geneste, ou Jeunesse, ou Jeunisse, était un comédien, plutôt un mime. Et puis, il s'est converti au christianisme, il a été torturé et décapité en 286, sous Dioclétien. Il a été canonisé au 8e siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que Saint Geneste est le saint patron du théâtre. Pourquoi évoquer Saint Geneste ? Parce qu'on n'en parle plus tellement, mais malgré tout, en 1644, une pièce est jouée, une pièce de quelqu'un dont vous avez sûrement entendu le nom, une pièce de Jean de Rotrou, qui s'appelle « Le véritable Saint Geneste ». Alors, qui était Jean de Rotrou ? Il est né en 1609, à Dreux, rue Olé, pour être plus précis. Très vite, il est parti à Paris parce qu'il voulait devenir auteur de pièces. Sa première pièce a été jouée en 1628, donc il avait 19 ans. Il était un temps poète attitré de l'hôtel de Bourgogne. Il a été protégé par Richelieu et a été l'ami de Corneille. Et en 1639, il avait acheté une place de lieutenant au bailliage de Dreux. Il se marie à Dreux en 1640. Au passage, peut-être une chose que beaucoup ignorent, un de ses fils a été curé du Chêne Chenu. Il revient à Dreux pour assumer sa charge. Son cousin, Claude Rotrou, est maire de la ville. Et en 1650, une épidémie de peste dévaste la ville de Dreux. Jean de Rotrou aurait pu quitter la ville, se mettre à l'abri. Son cousin, Claude, maire de la ville, meurt, et lui-même meurt de l'épidémie de peste pour ne pas avoir voulu quitter la ville où il était. Le service religieux funéraire a été célébré à l'église Saint-Pierre à Dreux. On ignore où exactement Jean de Rotrou a été enterré, sans doute dans le cimetière qui était à côté de l'église Saint-Pierre. Et alors, c'était un poète qui, au début du XVIIe siècle, était célèbre. C'était un auteur de théâtre dont on jouait les pièces, dont on rejouait les pièces, dont on éditait les pièces. Alors, je me suis posé la question, que reste-t-il aujourd'hui, enfin, de ce théâtre de Jean de Rotrou? Et alors, plutôt que de vous parler de la pièce que j'évoquais au début, Saint-Genest, le véritable Saint-Genest, je voudrais évoquer aujourd'hui une de ses dernières pièces. Elle date de 1648, elle a été publiée un an plus tard, en 1649, c'est-à-dire un an avant la disparition de Jean de Rotrou. La pièce s'appelle Cosroès. Cosroès, c'est une pièce qui se passe en Perse, dans le palais du roi, et dans la pièce, le roi de Perse est Cosroès. Bien sûr, comme souvent au théâtre, ce n'est pas Cosroès, en fait, qui a donné son nom à la pièce, qui est le véritable personnage, le personnage le plus important de la pièce. Le personnage le plus important de la pièce, étonnamment, c'est une femme. C'est Syra, la deuxième épouse de Cosroès. Et Jean de Rotrou nous en donne un portrait digne de, on va dire, Lady Macbeth de Shakespeare, digne de l'Agrippine du Britannicus de Racine. Une femme à la volonté de fer qui mène tout le monde sous son autorité jusqu'à aller à la mort. Alors, Cosroès est donc roi de Perse. Il est marié à Syra. L'héritier du roi s'appelle Siroès. Siroès, c'est le fils de la première épouse de Cosroès. Sa mère est morte, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les relations avec sa belle-mère, avec sa marâtre, comme on disait à l'époque, ne sont pas au beau fixe. Tout simplement parce que Syra voudrait, plutôt veut, que le prochain roi de Perse soit son propre fils, Mardesane. Voici donc les quatre personnages principaux présentés. Pour vous donner une idée du ton de la pièce, je vais vous lire un extrait de la première scène. Première scène qui voit l'affrontement, le premier, entre Syra, l'épouse du roi, et Siroès, l'héritier du roi, le fils du roi, le premier fils du roi. La pièce commence par « Quoi ? Vous, contre mon fils, vous, son indigne frère, vous, insolent. » Madame, un peu moins de colère, Syra, et me comprendre encore dans votre différend, Siroès. Je vous honore en reine et l'estime en parent, mais si forge un fantôme afin de le combattre, Syra, je serai bien perfide. Siroès, ah, cruel marâtre. À qui lui déplaira faire perdre le jour et contre qui le hait, lui montrer mon amour? Siroès, madame, quand le sang qui me le rend si proche ne me laverait pas d'un semblable reproche, pour savoir à quel point je le dois respecter, il suffit de l'amour qu'on vous voit lui porter. Il suffit qu'en ce fils nous voyons votre image et que nous ne pouvons lui rendre assez d'hommage. De ces raisons aussi me faisant une loi, j'ai pour lui le respect qu'il dut avoir pour moi. Lui, pour vous, oui. Pour moi. L'humeur où je m'outreuve fait de ma patience une trop rude épreuve. Et votre majesté, parlant sans passion, louerait ma retenue et ma discrétion. Mon père est Cosroès, ma mère fut princesse. Et le degré de l'âge et le droit de l'aînesse, et ce que pour l'État j'ai versé de mon sang, sur lui sans vanité m'acquiert quelques rangs, et mettent entre nous assez de différence pour devoir l'obliger à quelque déférence. Mais madame, cessons cet indigne entretien. Sirrah, comparez-vous le sang d'Albenède et le mien? Je sais que ma naissance à la vôtre inégale ne peut pas se vanter d'une tige royale, et qu'avant que la Perse obéît à vos lois, vous étiez déjà sœur, fille et veuve de roi. Mais enfin, devant vous, vous savez que ma mère possédait la puissance et le cœur de mon père, et cet honneur sans doute est le plus glorieux qui sur vous aujourd'hui fasse jeter les yeux. Sirrah, quand il m'a partagé l'éclat qui l'environne, j'ai dans son alliance apporté ma couronne. J'en ai acheté chez lui le degré que j'y tiens, et j'ai, comme mes jours joints, mes états aux siens, je lui semblais belle avec un diadème. Abdened avec lui n'apportait qu'elle-même, et le trésor encore n'était pas de grand prix. Il faut bien du respect à souffrir vos mépris. Sirrah, vous vous plaignez encore après votre insolence. Vous ne sauriez parler qu'avec violence, cette fureur sied mal au rang que vous tenez. Il sait bien de ranger les esprits mutinés. J'ai raison de venger mon sang de vos outrages et garder de me faire éclaircir vos ombrages. Je vous propose une première pause musicale. Après cette première scène, on voit paraître Mardesan. Mardesan, le fils de Sirrah, donc la deuxième épouse de Cosroès, et donc le demi-frère de Siroès, l'héritier légitime du trône. Et là, on découvre avec quelque étonnement que Mardesan n'a pas du tout envie de devenir roi de Perse. Il refuse cette couronne que sa mère veut à toute force lui placer sur la tête, ce qui arrange bien les affaires de Siroès, mais on va voir que dans cette pièce, les hommes ont beaucoup de mal à se maintenir dans leurs convictions, alors que Sirrah, elle, ne bouge pas d'un iota. Cette scène aussi entre Siroès, donc l'héritier légitime, et Mardesan, le demi-frère de Siroès, nous permet d'apprendre au passage que le roi de Perse, pour arriver au trône, a tué son propre père. Ça fait déjà quand même beaucoup de meurtres préalables. Et on va suivre ces personnages pendant toute la pièce. Et on verra que Siroès, lorsque son père, Cosroès, lui déclare qu'il ne sera pas l'héritier du trône, donc lui déclare que, apparemment, Syrah a été la plus forte. Siroès n'arrive plus à se maintenir dans sa résolution. Ô dure destinée et fatale aventure, j'ai pour moi la raison, le droit et la nature, et par un triste sort à nul autre pareil, je les ai contre moi si je suis leur conseil. Du sceptre de mon père, héritier légitime, je n'y puis aspirer sans un énorme crime. Coupable, je le souille. Innocent, je le perds. Si mon droit me couronne, il met mon père au fer, et de ma vie enfin, je hasarde la course, si mon impiété n'en épuise la source. Ô mon père, ô mon sang, ne vous puis-je épargner, ne puis-je innocemment ni vivre ni régner, et ne puis-je occuper un trône héréditaire qu'au prix de la prison ou du sang de mon père. Heureusement, ou malheureusement pour certains, les militaires ont fait leur choix. Ils veulent Siroès, pardon, comme roi, comme héritier, parce qu'il est l'héritier légitime de la couronne. D'autant plus que le roi en titre, Cosroès, est sujet à des crises de folie. Voici une scène de folie où le roi de Perse s'exprime ainsi. Noire divinité, filles impitoyables, des vengeances du ciel, ministres effroyables, cruels, redoublez ou cessez votre effort pour me laisser la vie ou me donner la mort. Ce corps n'a plus d'endroit exempt de vos blessures, vos couleurs n'ont plus où marquer leurs morsures, et de tant de chemins que vous m'avez ouverts, je n'en trouve pas un qui ne mène aux enfers. Ce n'est qu'en m'épargnant que la mort m'est cruelle. Je ne puis arriver où mon père m'appelle. Achevez de me perdre et de dans son tombeau enfermer avec lui, son fils et son bourreau. Heureusement pour lui, Syrah est là pour lui remonter la morale et toujours remettre en place ce qui est en train de se débander. Alors, l'héritier légitime, Siroès, est prêt à renoncer au trône lorsque les militaires viennent lui dire que c'est lui, le roi. Alors, suffira, elle. Continue à s'imaginer qu'elle a toujours le pouvoir. Enfin, selon mes vœux, malgré la loi persane, au trône de Syrie j'ai placé Mardesan. Et j'ai mis en état de n'y pouvoir nuire tous les intéressés qui le pouvaient détruire. Par mes ordres surtout, Sirouès arrêté ne peut mettre d'obstacle à notre autorité. Et Mardesan enfin, successeur d'Astarxex, règne et fait aujourd'hui le destin de la Perse. Syrah, quand même, emporté par sa folie meurtrière, commet une erreur monumentale. Elle le confie à un officier, un poignard, et un poison, pour qu'il laisse à Sirouès, l'héritier légitime, le soin de se supprimer soit par le poignard, soit par le poison. Voici ce que répond l'officier. Madame, aux seules pensées d'un destin si funeste, je crois, voir dessus moi choir le courroux céleste, j'en demeure, interdit, j'en frémis d'horreur. Il faut bien plus de force à servir ma fureur. On achète à bon prix l'État, dont la conquête et l'affermissement ne coûtent qu'une tête. J'élèverai ton frère à un si digne rang que nul près que lui n'approchera mon sang, et la part qu'il aura dedans le ministère. C'est au sujet d'obéir et se taire. Pour vos intérêts, je n'examine rien, madame. De ce pas, je sers votre colère et porte ce présent et votre or, mais je crains de vous rendre un service fatal. Et j'ose dire plus que j'en augure mal. Syrah, qui croit aux lois des dieux, ne crois point aux augures. Ils ont déjà réglé toutes mes aventures, j'ose tout, et me ris de ces lâches prudents qui tremblent aux pensées de tous les accidents, tant de précautions au grand projet est vaine. Je veux purger l'État de l'objet de ma haine et tant à me venger plus qu'à ma sûreté.
La situation en est arrivée à un tel point qu'on ne sait plus trop comment la pièce va se terminer. Siroès, l'héritier légitime, en arrive même à penser renoncer au trône. Ce sont encore une fois les militaires qui vont le pousser à rester. Pour lui, il y a un mot qui compte, c'est le fait d'obéir à son père. Son demi-frère, Mardesane, se résout à essayer de comploter contre lui parce qu'il est poussé par sa mère, même si lui-même ne souhaite pas devenir roi. Le roi encore en place, Chosroès, lui, eh ben, il vogue d'un côté à l'autre sans trop savoir où arrêter ses pas. Alors il y a des ordres, des contre-ordres. Et finalement, la pièce se termine fort bien, c'est-à-dire fort bien pour le principal personnage. Le demi-frère, Mardesane, finit par se planter un poignard dans le cœur pour n'avoir pas à trahir son demi-frère. Sa mère, Syra, voyant que tout est perdu, admettant enfin qu'elle a perdu la partie, s'empoisonne. Son époux, le roi de Perse, Chosroès, la voyant mourante, finit la coupe de poison où restaient quelques centilitres de produit. Voilà donc trois personnages morts. Évidemment, il ne reste plus que Siroès. Automatiquement, il est couronné roi de Perse. La pièce ne nous dit pas ce qu'il est devenu après. Ce qui est intéressant, je trouve, dans cette pièce aujourd'hui, c'est de voir à quel point c'est une femme qui mène toute l'intrigue. Autour d'elle, les hommes, mari, fils, beau-fils, hésitent, flottent, ne savent pas comment faire, ne savent pas quelle partie prendre. Elle seule sait exactement ce qu'elle veut. En clair, le pouvoir pour son fils. Et on ne peut pas s'empêcher de penser à un autre personnage aussi redoutable. L'Agrippine, mise en scène par Jean Racine dans Britannicus. Rappelez-vous la fameuse tirade « Asseyez-vous, Néron, et prenez votre place. On veut vos soupçons que je vous satisfasse. Des crimes que j'ai faits, je vais vous éclaircir, vous régner. Vous savez combien l'Empire et vous entre votre, vous savez combien votre naissance entre l'Empire et vous avait mis de distance, etc. » Et peut-être faut-il voir, pour Jean de Rotrou, pour l'auteur de la pièce, une influence quand même du début du XVIIe siècle, une époque où les femmes jouaient un rôle considérable dans la société. Je vous remercie de m'avoir écouté.